Merci beaucoup, Matt. Content de pouvoir passer ce temps avec vous à écouter la parole de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on se sent quand c'est lundi matin? On sait comment on se sent quand c'est dimanche matin, parce qu'on est là. Mais comment est-ce qu'on se sent quand c'est lundi matin? On sait qu'on doit aller travailler. Alors, si tu aimes ton travail, ça peut être le meilleur jour de ta semaine. Ah, lundi, chouette. Mais probablement, on a un peu de mal avec le lundi matin. Ça semble un jour à supporter, un jour à passer, bon, en espérant que finalement on sera vite vendredi et qu'on pourra à nouveau profiter d'un peu de repos pendant le week-end. Mais quand nous voulons vivre en tant que chrétiens, notre connaissance de Dieu change tout. Connaître Dieu change pas seulement nos activités, nous ne péchons pas, nous essayons de vivre ce que Dieu veut, mais aussi notre attachement, nos sentiments par rapport à ce qui nous occupe. Et nous voulons être sages, nous avons commencé une série il y a quelques semaines sur la sagesse. Nous voulons apprendre à vivre selon la sagesse de Dieu. La semaine passée, on parlait de la sagesse avec l'argent. Aujourd'hui, on va parler de la sagesse avec le travail. Comment être sage au boulot. Nous vivons et nous travaillons pour Dieu. C'est lui qui dirige notre vie. Jésus a dit, Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est Jean 5, 17. Ça veut dire, Dieu le Père travaille tout le temps et Dieu le Fils travaille tout le temps et Dieu le Saint-Esprit travaille tout le temps. Notre Dieu est un Dieu qui travaille par sa force toute puissante. Il soutient le monde, il nous maintient en vie, il coordonne les choses, il conduit toutes choses à ses fins. Dieu travaille. Alors nous ne pouvons pas travailler comme Dieu. Nous ne pouvons pas être sans limite. Nous sommes limités en tant que créature. Dieu seul est capable de faire tout le temps son travail, c'est pour ça que Jésus a dit il travaille tout le temps et que Jésus aussi travaille. Mais même dans nos limites, nous pouvons travailler parce que Dieu travaille. En fait, le monde dans lequel nous vivons n'est pas une série que Dieu a mis juste pour regarder, pour son divertissement, en ne faisant rien. C'est un monde dans lequel Dieu est à l'œuvre. Dieu façonne des choses, organise des choses, prépare des choses, accomplit ce qu'il a promis. Et donc, quand nous travaillons, nous imitons Dieu. On va voir aujourd'hui comment nous l'imitons dans notre travail. Dieu nous a créés avec cette capacité de travailler. Nous devons faire cela pour lui. Alors, on va entendre notre trois directives aujourd'hui à partir de la Bible sur ce travail que nous avons en tant que croyants. Et la première est celle-ci. Soyez heureux dans votre travail. Soyez heureux dans votre travail. Vous avez peut-être des collègues qui se plaignent le lundi matin. La semaine commence avec des plaintes. On se retrouve et on se plaint. Oh, les autorités, oh, la météo, le patron, les conditions, c'est pas bon ici, etc. On commence souvent avec le sport national de la plainte. C'est comme ça qu'on commence notre semaine. Et il y a des murmures, simplement parce qu'on ne veut pas travailler, et on doit travailler. Mais au lieu d'écouter les plaintes et au lieu de se joindre à ceux qui murmurent, écoutons la Bible. Ecclésiaste chapitre 3, verset 10. Alors on est en train d'écouter la partie de la Bible qui est dédiée à la sagesse. On a commencé par les psaumes. Il y a aussi les proverbes qui sont bien entendu bien connus pour la sagesse qu'ils ont. Mais le livre de l'Ecclésiaste est aussi un livre biblique de la sagesse qui nous permet de comprendre la perspective de Dieu sur le monde et sur la vie pour que nous puissions être sages dans ce que nous faisons ici-bas. Vous voyez, Ecclésiaste chapitre 3, il va être affiché aussi, je pense, mais on va lire les versets 10 à 13. Ecclésiaste 3, 10. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ça peut surprendre. Vous voyez l'accent qu'il met là ? On se réjouit. Il est en train de dire, soyez heureux dans votre travail. L'Ecclésiaste est un sage. C'est quelqu'un qui a compris des choses d'après Dieu et qui a aussi étudié la vie. Je pense que l'Ecclésiaste, en fait, c'est Salomon, le grand roi sage. Plus tard dans sa vie, il réfléchit à ses choix et aux conséquences de ses choix. Il décrit la vie. Et parfois, on le trouve un peu pessimiste. Et donc, ça peut sembler un peu surprenant que l'Ecclésiaste, ici, est en train de dire « Soyez heureux dans votre travail ». Est-ce qu'il ne voit pas les problèmes du monde ? Est-ce qu'il n'a pas, il s'est pas aperçu de la difficulté qu'ont les gens à travailler ? Ben oui. Si on remonte au chapitre 2, donc le chapitre précédent, verset 22, il dit « Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil ? Ses journées ne sont toutes que souffrances et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. » Il constate que oui, il y a des choses qui sont difficiles et que parfois le travail, qui devrait nous donner de la joie, est pénible et nous attriste. La Bible indique en fait que depuis le début, depuis que le péché est entré dans le monde, dans la vie humaine, le travail est devenu difficile, frustrant, pénible. Et c'est vrai que c'est des frustrations que nous connaissons tous. Notre travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Il y a une surcharge de travail. Parfois, on se dit on n'est juste pas assez pour faire le travail dans notre entreprise. Et il y a encore et encore et encore du travail. On en a tellement, sans fin. Nous travaillons et puis nous laissons notre place à quelqu'un d'autre qui pourrait être moins sage que nous, qui pourrait moins bien gérer l'entreprise ou la fortune que nous avons laissée. De toute façon, on ne garde pas le fruit de notre travail, n'est-ce pas ? Ou nous avons aussi peut-être le sentiment de tourner en rond, de dire, mais j'ai déjà fait ce travail, je l'ai fait l'an dernier, ou je l'ai fait la semaine passée, je dois encore travailler, je dois encore faire des choses, je dois encore préparer des repas, je dois encore laver des vêtements, je dois encore donner des cours, je dois encore faire une vente, ou soigner quelqu'un. Eh bien oui, tout cela, l'Ecclésiaste le sait. Il dit oui, la vie tourne en rond. On a le sentiment qu'on l'a déjà fait et que pourtant on doit le refaire. Et puis ça continue et on tourne en rond. On ne voit pas tout ce que Dieu a préparé. On ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu qu'il accomplit du début à la fin. L'autre surprise ici est que l'Ecclésiaste est un homme de Dieu. Et on pense qu'il va dire quelque chose de plus spirituel que... Ben alors, travaillez bien, et puis mangez et buvez, et amusez-vous bien. Ça semble pas vraiment très spirituel. Mais en fait, ça fait partie de sa réflexion sage. Alors, il faut comprendre que le livre de l'Ecclésiaste est un parcours, d'accord ? Et ici, ce n'est pas la fin du parcours, il va arriver au chapitre 12, à la conclusion qui est « Craignez Dieu et respectez ses commandements ». Ça, c'est la conclusion ultime de la vie du croyant. On craint Dieu, on est sage, et on craint Dieu, on respecte Dieu. Mais ici, c'est une conclusion intermédiaire. Ce n'est pas la conclusion vraiment finale, ce n'est pas le dernier mot, mais c'est néanmoins une conclusion qui l'appuie. Nous devons reconnaître la valeur de notre travail. La valeur ultime, c'est d'être en bonne relation avec Dieu. Mais nous avons aussi comme cadeau de pouvoir manger, boire. Ce sont des choses naturelles, agréables. Travailler fait partie de notre vie humaine. Vous savez, le travail n'a pas été inventé après la chute. Parfois, c'est une idée qu'on a, que l'humanité, ils étaient en vacances, ils profitaient bien, c'était super reposant. Et puis, ils ont péché, et puis Dieu a dit, ben voilà, maintenant vous allez travailler. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a toujours eu dans l'humanité que Dieu a créé un rôle, une tâche, une activité humaine, sainte, juste. Et donc ça veut dire que tout ce que nous faisons comme travail, que ce soit rémunéré ou pas, ça reflète notre Créateur. Dieu, notre Créateur, nous a fait pour faire du bien par notre travail. Et lorsque nous travaillons, nous reflétons un aspect du caractère et de l'activité de Dieu, du Seigneur. Tu prépares des repas? Eh bien, Dieu nourrit ses créatures, comme on l'a entendu dans le psaume. Tu mets de l'ordre dans ton travail, là où il y a du désordre. Tu crées un système, peut-être. Eh bien, Dieu est celui qui aime l'ordre et qui a créé des systèmes. Tu facilites la communication. Dieu est un Dieu qui parle. Tu enseignes, tu donnes des cours. Dieu est un Dieu qui nous instruit. Tu prends soin de la veuve et de l'orphelin. Bien sûr, Dieu est celui qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Ou tu es constructeur, architecte. Dieu est le constructeur de tout. Tu soignes les gens, tu prépares l'avenir, toutes les choses que Dieu fait. Donc ce qui donne de la valeur à notre travail, c'est qu'on se dit, en fait, Dieu le fait aussi. Dieu fait cette tâche. La meilleure image pour cela est quand nous sommes, quand nous sommes très petits, et que notre papa est en train de faire un grand projet, peut-être un projet de menuiserie, et il est en train de monter quelque chose d'impressionnant. Et il nous dit, voilà, prends un marteau et tape ce clou. Et quelque part, notre père est en train de scier avec la grande scie ou la scie électrique. Et puis à côté, on est là en train de scier un petit peu de bois. On entre dans l'activité. Ça nous fait plaisir parce qu'on voit que notre papa est en train de faire quelque chose. Donc on peut se réjouir de notre travail, se réjouir d'en avoir. Vous savez, j'ai connu des gens qui n'avaient pas de travail. C'était une peine. Difficulté du chômage, où on dit j'aimerais bien trouver un travail, mais je n'arrive pas à en avoir. Nous entendons parfois des gens se vanter de faire beaucoup d'argent. Voilà, je vais pouvoir prendre ma retraite anticipée, tant mieux. Mais il faudra quand même une activité. Parce que juste vivre comme ça longtemps sans rien faire, ce n'est pas nécessairement le meilleur pour nous. On peut être désœuvré et abattu quand on est désœuvré, parce qu'on se dit, mais à quoi je sers? Soyez heureux au travail. C'est là la sagesse de Dieu. Et vous allez surprendre les gens au bureau demain matin en étant heureuse. Mais qu'est-ce qui est là? Mais en fait, j'ai appris que c'est une bonne chose que j'ai un travail. Remerciez Dieu qui vous a donné un travail. Réjouissez-vous de pouvoir ajouter quelque chose au monde par votre travail. Et en fin de journée, vous pouvez prendre votre repas en étant content d'avoir fait votre travail. Alors, ce n'est pas qu'il est terminé, il y en aura encore pour demain. Mais au moins, pour la journée, vous avez terminé votre journée de boulot. Et vous pouvez vous reposer en disant, j'ai fait quelque chose d'utile aujourd'hui. C'est la première exhortation, c'est réjouissez-vous de votre travail. Mais on va aller plus loin. Faites votre travail à fond. Je n'ai pas trouvé de meilleure façon d'exprimer ça. Donc, faites-le à fond. Travaillez. De manière assidue. Maintenant, on va regarder les proverbes. Il y a beaucoup de proverbes qui parlent, Proverbes chapitre 6, il y a beaucoup de proverbes qui parlent de quelqu'un qu'on appelle le paresseux. Un paresseux est quelqu'un qui est ridiculisé dans les proverbes parce qu'il ne veut pas travailler. À un moment, il va dire, ouais, tellement paresseux qu'il ne peut pas relever la main à la bouche pour manger. Vous imaginez ça, cette paresse, alors, oh, je suis juste trop fatigué pour manger. Ou un paresseux qui va dire « il y a un lion dehors, donc je ne vais pas sortir parce qu'il y a peut-être un lion dehors ». Des excuses pour ne pas devoir aller travailler. Mais ici, au chapitre 6, il va nous prévenir à travers le paresseux. Et ici, il va exhorter le paresseux. On va lire chapitre 6. Vous allez regarder ça avec moi, les proverbes 6 à 11. « Va vers la fourmi, paresseux. Observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. » La fourmi est un exemple parce qu'elle travaille. Elle s'active. Va chercher de la nourriture. Vous avez vu des fourmis? J'en ai vu parfois. Hein, elles sont toujours en train de bouger. Et il n'y a pas de fourmi chef. Il n'y a pas une autre fourmi à côté qui est en train de voir la file et qui dit oui, c'est bien, hein, allez-y. Elles sont toutes actives, les fourmis. Elles bougent. Gaston Lagaffe est un personnage fictif créé par Franquin, dessinateur belge. Gaston est un employé dans un bureau artistique et il doit particulièrement gérer le courrier. Alors, c'était les années 60 à 80 environ. Donc, il y avait beaucoup de lettres qui arrivaient à son bureau. Et Gaston était censé lire ces lettres et puis répondre aux lecteurs ou aux écrivains des lettres. Le problème est que Gaston est paresseux. Il y a des montagnes d'enveloppes. Ça prend en fait des proportions comiques. Ils sont cachés un petit peu par là. Il y a des montagnes d'enveloppes de courriers en retard auxquels Gaston est censé répondre. Et son chef doit s'énerver sur lui parce que ça n'avance pas. Non seulement Gaston, il aime roupiller parce qu'il est paresseux, il est aussi très créatif pour trouver d'autres choses à faire. En fait, quand on constate, quand on lit une planche de Gaston, on voit qu'il fait plein de choses. Il nourrit des animaux, il a des choses qu'il invente, il bricole des choses, il y a de la chimie amusante. Il fait plein de projets. C'est juste pas le travail qu'il est censé faire. Il n'avance pas dans son travail parce qu'il est en train de faire d'autres choses. Et ça montre que la paresse peut prendre différentes formes. On peut être actif et pourtant paresseux. On peut être paresseux au lit, mais on peut être aussi paresseux au travail. Ah, il est là au bureau chaque jour, mais il ne travaille pas. On peut être paresseux sur le plan intellectuel. Oh, pas envie de réfléchir. On peut être paresseux sur le plan spirituel. Ouais, il ne faut pas trop me demander. La paresse peut en fait nous affecter de différentes manières. Et la paresse, en fait, est une passion. Quand j'ai compris ça m'a vraiment ouvert les yeux. La paresse est une passion. La paresse n'est pas l'absence de passion. C'est une passion qui nous prend. On peut être passionné pour le fait de se reposer. Et c'est dangereux. Regardez le risque. On veut juste faire une sieste, dit le proverbe. On veut juste dormir un peu plus longtemps. Et c'est comme si un voleur à main armée était venu et nous avait piqué notre portefeuille parce qu'on ne va rien gagner pendant qu'on est en train de dormir. Alors quelqu'un pourrait dire, oui, mais Paul, est-ce que c'est vraiment le cas qu'on ne peut pas dormir? Ici, on est en train de dire, tu ne peux pas dormir, je ne peux pas me reposer. Nous avons tous besoin de sommeil. Certains plus que d'autres, d'ailleurs. On n'est pas tous les mêmes. Certains ont besoin de dormir longtemps. Et nous avons des limites, et la fatigue, c'est important. Le sommeil est là pour interrompre notre travail. Et pour que nous prenions conscience de cette réalité, que nous sommes des créatures avec des limites et que nous ne sommes pas des robots qui peuvent juste travailler toute la semaine, comme un frigo qui est juste allumé tout le temps. Non, nous avons à nous reposer. Et il peut être sage de dormir un peu plus le week-end pour récupérer. La question qu'on doit se poser par rapport au sommeil, je pense, est celle-ci. Ce n'est pas est-ce que je peux dormir ou pas, mais c'est est-ce que je serai plus sain en dormant. Qu'est-ce qui me fera dormir, pardon, qu'est-ce qui me fera grandir en sainteté? C'est dormir plus ou dormir moins? Nuance. Je pourrais dormir plus et être plus reposé, plus calme, plus à l'aise, plus attentif quand je lis ma Bible, plus prêt à prier parce que j'ai bien dormi, je me suis reposé. Je pourrais aussi être plus sain. Si je me lève un peu plus tôt et je lis ma Bible et je prie et je m'efforce d'y aller, donc ce n'est pas nécessairement la même réponse tout le temps. Mais ce qu'il faut faire, c'est pour notre sainteté. Et ça ne va jamais être facile. C'est une discipline de vie, chercher à être actif et chercher à travailler plutôt que être paresseux. Alors il y a deux exemples, je vais donner deux exemples autres que celui-ci où il y a le paresseux à qui il parle, il y a un fils dont il est question au chapitre 10, versets 4 et 5. Je vais juste lire ça, on ne va pas l'évoquer, l'expliquer, mais je vais juste le lire. Proverbe 10, 4, celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a la moisson là, tout est prêt, il faut aller récolter. Oh non, moi je dors. Ou encore une femme. Vous savez que le livre des Proverbes termine avec un portrait de la femme idéale. Et c'est formidable de voir ce portrait qui encourage les femmes et encourage le fils du roi à choisir une femme avec les bonnes qualités. Et ce qui est marquant, c'est combien elle travaille, cette femme. Proverbe 31, ce n'est pas la seule caractéristique, mais je vais juste faire ressortir quelques versets. À partir du verset 13, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte. Elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Versets 24 et suivants, elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Voilà, frères et sœurs, faisons notre travail à fond. Essayons de surmonter la passion de la paresse. Même quand on est retraité ou quand on n'a pas un travail rémunéré, faisons nos activités à fond. Le Nouveau Testament confirme notre appel à travailler à travers ces versets que j'aime beaucoup. Tout ce que vous faites, dit-il, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Tu peux penser patron ou madame la directrice ou la chef. Service. Non, ton maître, ton patron, c'est le Seigneur Jésus. Et ça doit nous pousser à travailler de bon cœur, pas à faiblir dans notre engagement, mais de travailler de manière ardue, concentrée. Mais que faire si on n'aime pas son boulot? Que faire si on ressent que ça demande un trop grand investissement de notre part et on n'aime pas travailler là? Alors il peut être légitime de changer de profession. Ou de changer de boulot, de cadre. Il y a des moments où on peut être renouvelé par un changement, par un nouveau défi. Ce n'est pas un péché de changer d'endroit où on travaille. Le problème est quand on ne travaille pas. Quand on va au boulot, on est tellement malheureux que finalement on n'arrive à rien produire. Alors on va s'absenter de plus en plus de son travail et c'est bon pour personne. Ce n'est pas bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour tes collègues, ce n'est pas bon pour l'entreprise et la productivité, ce n'est pas bon pour les clients. Donc, s'il te plaît, ne t'absente pas du boulot. C'est pas sage. Ensuite, il y a des saisons où c'est vrai qu'on ne peut pas travailler à temps plein. Et il faut accepter la saison dans laquelle nous sommes. Peut-être qu'on ne peut pas travailler autant qu'on travaillait avant. Il faut accepter qu'il y a des limites. On ne peut pas nécessairement travailler comme des robots tout le temps. Mais la paresse ne doit pas prendre le dessus. Même si notre force diminue, notre paresse ne doit pas prendre le dessus. Donc évitons de faire le travail à moitié. La pire des choses que vous pouvez faire, c'est aller au travail et travailler à moitié. De laisser des choses au bureau sans vraiment accomplir grand-chose. Parce que si vous passez des heures comme ça à faire du moitié travail, vous êtes censé travailler, mais vous travaillez juste un petit peu, en fait, vous allez devoir rattraper ça plus tard, au week-end ou à un autre moment. Et puis vous allez dire, oh, je suis tellement occupé. Oui, mais si tu avais travaillé convenablement à ton travail, à ton bureau, ben, tu ne devrais pas rattraper ça maintenant. Voilà donc quelques recommandations par rapport au travail à fond. Mais la troisième et dernière chose qu'on va voir, c'est à la fin, quand tu as travaillé à fond, quand tu t'es réjoui de ton travail, la troisième chose, c'est reposez-vous de votre travail. Dieu nous montre le modèle. Dieu travaille, mais il nous montre le modèle en se reposant après l'activité de la création. Il a travaillé en 6 jours à créer le monde. Peut-être que ça lui a pris plus de temps que ça. C'est une façon d'exprimer l'œuvre de Dieu. Mais il nous a montré le rythme. Après, on s'arrête. Parce que on peut se reposer et ne pas être paresseux. Si on travaille tout le temps, on fait de notre travail notre idole. Si on se repose tout le temps, on fait de notre passion la paresse. Mais si on travaille tout le temps, on ne va jamais montrer au monde que le travail n'est pas ultime. Un jour de repos, de temps d'arrêt en fin de journée, sont autant de moyens de dire « Stop, j'ai travaillé, mais je ne vis pas pour mon travail, je vis pour mon Seigneur. Et Dieu m'a créé pour autre chose que juste travailler, travailler, travailler. » Dans l'Ancien Testament, il y a déjà le rythme qui est établi. Dans les 10 commandements, c'est présent en disant « On va travailler pendant 6 jours, mais après, il faut se reposer. » Le jour qu'ils appellent le sabbat signifie « arrêt », c'est un jour d'arrêt de travail. Et Jésus a dit une chose très intéressante à ce sujet par rapport au sabbat. Jésus a dit ceci, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » C'est en Marc 2, verset 27. Donc ça veut dire que ce n'est pas que le sabbat était tellement important que Dieu a voulu créer des gens pour qu'ils aient cette expérience du jour de congé. Non. Le sabbat avait pris des proportions énormes à l'époque de Jésus. Il y avait des gens qui disaient à quelqu'un qui était guéri, qui portait son brancard, « Tu ne peux pas porter ton brancard. » Il y avait des gens qui disaient à Jésus, « Tu ne peux pas guérir quelqu'un aujourd'hui. C'est le sabbat. » Non, on avait perdu le sens du sabbat. Mais le sabbat a été fait pour l'homme. C'est ce que Jésus a dit. Et donc pour certains d'entre nous, nous avons besoin d'entendre cette parole à nouveau aujourd'hui parce que notre travail est sans fin et sans arrêt. L'être humain a besoin de repos, a besoin d'arrêter de travailler. On ne peut pas continuer à travailler sans arrêt. Le travail est bon, mais le repos est bon aussi. Ça nous interpelle, n'est-ce pas? Parce que nous sommes de plus en plus envahis par notre travail. Vous trouvez que vous rentrez à la maison et votre travail vous poursuit? Alors notre employeur et nos collaborateurs ou nos clients ne vont pas créer des limites pour nous. C'est à nous de créer des limites et de dire « Ok, stop, stop, j'arrête là, je ne continue pas. Je m'impose des limites pour ne pas être constamment attiré par le travail et en train de retravailler quand j'ai moi-même terminé ma journée de travail. » Et il faut aussi arrêter notre travail à un jour chaque semaine. Dans certains cas, ça veut dire ne pas faire à manger, mais profiter de ce que vous avez préparé la veille. Pour dire, ben en fait, je dois moins travailler aujourd'hui pour ça. Pour d'autres personnes, ça va vouloir dire prendre un jour pour voir sa famille. On n'a peut-être pas beaucoup vu pendant qu'on travaillait. Mais là, on veut passer du temps en famille. Ce n'est pas un jour pour s'exiler et dire je vais être tout seul sur la plage. Non, je vais voir des amis, je veux voir les membres de ma famille, je veux faire du bien aux autres. Ne méprisez surtout pas quelqu'un qui arrête de travailler en disant ah, il est faiblard. Moi, je continue à travailler, moi, je suis vigoureux. Non, il faut reconnaître que les gens ont besoin de repos. Et c'est une bonne chose s'ils se reposent. Un jour pour se recharger les batteries, c'est mieux pour être en forme, pour redémarrer le travail le lendemain. Pendant ce jour d'arrêt, je vous encourage aussi à prévoir des choses édifiantes. À dire, c'est un jour où je vais lire la Bible. Si vous partez en vacances, par exemple, ne dites pas, ben voilà, je laisse tout derrière. Prenez votre Bible, écoutez des prédications, lisez un livre chrétien, relisez vos notes de prédication ou d'études bibliques pour que vous soyez édifiés pendant ce temps d'arrêt. C'est un temps d'arrêt, mais avec Dieu. Alors je termine en disant ceci, nous avons tous à réfléchir par rapport à nous-mêmes, comment nous allons travailler mieux. Mais le travail et le repos viennent du Seigneur. Le travail et le repos viennent du Seigneur. Ce sont des cadeaux. On ne va pas dire « Ah non, non, je ne veux pas travailler, moi je veux juste me reposer. » Mais on ne doit pas nous dire non plus « Ah non, je veux travailler, travailler, travailler et tant pis pour le repos. » On en a les deux de la part de Dieu. Mais ni le travail, ni le repos sont notre raison d'être. Nous devons gérer l'un et l'autre et faire de notre mieux. Travailler de tout notre cœur pour le Seigneur, oui, il nous a donné un travail. Nous n'aurons pas tous le boulot de nos rêves, mais nous pouvons être heureux de travailler, si nous comprenons que notre travail est voulu par Dieu. Nous allons apprendre aussi à nous reposer en requérant un petit peu d'organisation de notre agenda, dire stop au boulot, mettre ça sur pause et profiter de notre temps d'arrêt, notre temps libre, dans la sagesse de Dieu, pour avoir nos autres responsabilités et voir ce que Dieu veut que nous fassions dans d'autres domaines de notre vie. Même pour ce qui est de notre travail, apprenons à compter sur Dieu. Vous savez, parfois on se dit, je suis bloqué à mon travail, je ne sais pas exactement comment je dois faire mon travail, mon boulot. Eh bien, il y a quelqu'un qui connaît mieux votre travail que vous, c'est Dieu. Et il vous a créé, mais il connaît toutes choses. Et je pense que c'est parfois nécessaire de simplement dire, mais je peux prier par rapport à mon travail, mon entreprise, mon travail professionnel, que Dieu me donne de bonnes idées, que Dieu m'inspire, me conduise, m'aide à prendre de bonnes décisions pour mes affaires. Parce que Dieu a voulu que tu travailles. Il veut aussi t'aider pour cela, pour que tu réussisses bien. Et en tout, essayons de voir au-delà de notre travail, au-delà de notre carrière, parce qu'il y a un maître pour qui nous travaillons. Et celui-là a travaillé de manière si efficace que par son œuvre, nous sommes sauvés. Et reposons-nous donc sur lui, le Sauveur Jésus. Père Céleste, nous voulons apprendre à vivre dans les conditions que tu nous as données. On est limité, on est des créatures. Respecter nos limites, mais aussi à faire notre travail avec joie et avec détermination. Alors aide-nous, Seigneur, que nous puissions nous encourager les uns les autres, que nous puissions recevoir l'aide de ta part pour faire notre travail comme ceux qui portent ton image. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre le repas du Seigneur. Je vais inviter le groupe à s'avancer. Et aussi, Matt, si tu veux bien prendre la table du Seigneur. Le repas du Seigneur est un moment où on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous. Comment Dieu, notre Père, nous a sauvés à travers son Fils, qui a donné sa vie à la croix pour nous. Hébreux chapitre 1, je vais lire quelques versets. Hébreux chapitre 1, rassurez-vous, on n'est pas parti pour une deuxième prédication. Mais juste le lire. Chapitre 1, verset 1 à 4. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. » On voit ici l'œuvre accomplie du Seigneur. Oui, il a créé l'univers, il a créé tout. Mais aussi, Jésus a accompli la purification de nos péchés. C'est pour ça qu'il est assis. Assis, ça veut dire que son travail est fini. Il ne doit plus travailler à nous purifier, etc. Il l'a fait. Il l'a accompli. Son travail est accompli. Et nous pouvons bénéficier de ce travail. Alors ici, à LifePoint, nous vous invitons à venir devant et à prendre les coupes en souvenir de ce que Jésus a donné, sa vie, son corps et son sang pour nous. Et puis à le ramener à votre place où nous allons nous attendre et nous allons prendre le pain et le vin ensemble. Alors c'est du vin à l'extérieur, le cercle tout à fait extérieur, c'est du vin, et à l'intérieur, les cercles à l'intérieur sont du jus de raisin, si vous préférez prendre cela. Si vous avez la foi, dites-le. Dites à quelqu'un d'autre que vous croyez en Christ. Et la première étape, c'est alors d'être baptisé, un signe public que vous croyez en Christ. Et si vous êtes baptisé en tant que croyant en Jésus-Christ, alors vous êtes invités, bienvenue à la table du Seigneur pour partager cela ensemble. Je vais prier et puis je vais vous inviter à venir devant. Merci notre Père pour la grandeur du travail de Jésus pour nous purifier de tous nos péchés. Oui Seigneur, nous sommes bien conscients de nos fautes, récentes et anciennes, mais toi tu les oublies, tu les pardonnes, tu les effaces par le sacrifice de Jésus ton Fils. Alors donne-nous de l'assurance, donne-nous ton pardon et la joie de la communion avec toi et que nous puissions, avec reconnaissance, prendre ces quelques aliments en souvenir de lui. Amen. venez ensemble.